Bonjour, cher frère. C'est merveilleux de voir tout le monde. Nous avons eu un temps magnifique ces derniers jours. C'est presque une honte que nous ne soyons pas dehors en train de célébrer des offices. Ce n'est pas le cas. Nous sommes ici. Commençons. Je voudrais commencer par un. J'ai lu un article, en me préparant pour le message, et j'aimerais relever quelques petits passages. Tout d'abord, certains pensent que l'esprit humain est connecté à l'univers à un niveau de conscience quantique. En 21, ils ont découvert que la connexion du cerveau humain et la toile cosmique ont des structures similaires. Le spectre de puissance des tranches de cerveau s'aligne également sur la courbe de la toile cosmique, ce qui suggère que la complexité de l'univers et ses capacités de traitement de l'information sont similaires à celles du cerveau. Maintenant, je peux respirer. C'est beaucoup dire. Il continue. Encore un petit passage. Il est dit qu'il y a à peu près le même nombre de neurones dans le cerveau humain qu'il y a de galaxies dans l'univers observable. Cela n'a littéralement rien à voir avec le message, si ce n'est ce que l'homme essayait de faire. Ce qu'ils essayaient de faire dans ce message, c'était de comprendre et de trouver l'importance dans l'esprit de l'homme tout en voyant aussi, de manière inhabituelle, les liens possibles avec quelque chose de plus grand. Eh bien, frère, je suis ici pour vous dire qu'il y a un esprit que nous devrions connaître. Il y a un esprit qui est plus grand que le nôtre. Il y a un esprit destiné à se connecter avec nous. Levez la main, qui veut cet esprit? Je veux absolument cet esprit. Frères et sœurs, cet esprit est ici. C'est l'esprit de Dieu. Frères et sœurs, nous avons besoin de l'esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu. Et c'est ce que nous allons creuser aujourd'hui. La pensée de Dieu, et les différents aspects de son besoin, de son absence, et de la résolution des problèmes. Nous allons donc commencer par là. Quelle est l'importance de la pensée de Dieu? Quelle est son importance? Gardez cela à l'esprit. Quelle est son importance? Commençons donc par le premier don que Dieu fait à ses futurs fils et à ses futures filles. Le premier don. Ouvrez votre Bible au livre des Actes des Apôtres et passez au chapitre 2. Vous vous dites peut-être, je sais de quoi il s'agit. Peut-être. Peut-être, peut-être pas. Actes des Apôtres, chapitre 2, et nous commencerons au verset 36. Le verset 36 du chapitre 2 des Actes des Apôtres. On y lit, jusqu'à ce que je rende mes ennemis. Oh, c'est le verset 35. C'est pourquoi toute la maison d'Israël doit savoir avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ le même Jésus que vous avez crucifié. Ayant entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes et frères, que ferons-nous? Que devons-nous faire? Que dit Pierre? Pierre leur dit, repentez-vous. Arrêtez-vous là. Repentez-vous. C'est la première chose que Pierre leur a dit de faire. Se repentir. La repentance est un don. C'est ce premier cadeau que Dieu fait à ses futurs fils et à ses futures filles. C'est le repentir. C'est le changement. À ce stade, la personne qui reçoit ce don n'a pas l'Esprit de Dieu en elle, mais elle a l'Esprit de Dieu qui travaille avec elle. Nous comprenons cela. Si vous avez suivi la formation baptismale, les différentes classes et tout le reste, et que vous avez été baptisé, nous comprenons que la repentance, c'est la capacité de décomposer, de simplifier, nous allons creuser plus profondément. C'est la capacité de penser, de voir et de comprendre avec l'Esprit de Dieu, de se voir soi-même. L'un des aspects du conseil baptismal que nous abordons est celui des quatre vous. Vous vous en souvenez peut-être si vous avez été baptisé, si vous êtes en train de suivre le conseil, ou si vous avez. Je vais vous raconter la suite de l'histoire en ce qui concerne les quatre vous. Le premier vous est celui que vous voyez. Regardez dans le miroir. C'est moi. C'est le premier vous. Le deuxième vous est celui que les autres voient. Maintenant, nous entrons dans l'aspect du don, de ce premier don, se repentir. C'est le troisième vous. C'est là que tout commence. Le troisième vous, c'est nous voir à travers les yeux de Dieu. Commencer à comprendre et à saisir ce que Dieu voit en nous. Ensuite, le quatrième toi ne se contente pas de nous voir dans le présent, mais il voit notre avenir, notre potentiel. Ce don est le repentir. C'est ce don qui nous permet de changer. Pensez-y. Si l'on nous dit de changer quelque chose dans notre vie, nous ne nous contentons pas de le faire, Nous devons y réfléchir. Nous devons nous asseoir et décider, d'accord, qu'est-ce que je dois changer? Quand dois-je le faire? Pourquoi dois-je le faire? Et où dois-je le faire? Eh bien, pour que nous fassions cela et que nous le fassions correctement, comme Pierre l'a dit, le repentir est la toute première chose à faire. Avant même qu'il ne se mouille. Il a dit, repentez-vous. Pour ce faire, nous devons réfléchir. Nous devons utiliser l'Esprit de Dieu pour être capables de voir ce que Dieu veut que nous changions dans notre vie. Pour effectuer ce changement. Comme je l'ai dit, nous allons approfondir un peu plus ce premier don. Je vous invite à vous reporter au chapitre 7 de la deuxième épître aux Corinthiens. C'est incroyable. Alors que je me préparais pour cette conférence, que ma direction ait changé de temps de façon, mais j'ai appris tellement de choses. Je n'avais pas réalisé combien de fois l'Écriture parlait de l'Esprit de Dieu. Très bien, nous sommes au chapitre 7 des Corinthiens, nous commencerons au verset 9. Je me réjouis, non de ce que vous avez été attristé, mais de ce que vous avez été attristé jusqu'à la repentance. Car c'est avec piété que vous avez été attristé. D'où pensez-vous qu'ils ont tiré cette attitude pieuse? Ils ont eu accès à la pensée de Dieu. C'est cela, la piété. Afin que vous soyez endommagés par nous en rien. Car la tristesse de Dieu produit la repentance à salut, sans qu'il y ait lieu de s'en repentir. Mais la tristesse du monde produit la mort. Car voici, c'est cette même chose que vous avez regrettée selon la piété, et c'est cette même chose que vous avez regrettée selon la piété. Une fois de plus, il est question d'une sorte de piété, d'une manière pieuse. Cela nous ramène à ce premier don, ils n'ont pas encore reçu l'Esprit de Dieu, mais ils ont accès à la pensée de Dieu. Quelle prudence cela a suscité en vous. Oui, quel nettoyage de soi. Oui, quelle indignation. Oui, quelle crainte, quel désir de Béhémoth, quel zèle, quelle vengeance. En toute chose, vous vous êtes autorisé à être clair de cette manière. Vous avez utilisé cet accès à la pensée de Dieu. Vous avez vu, grâce à la direction de Dieu, ce que vous devez changer dans votre vie. C'est le premier don. Eh bien, frère, le premier don mène au second don. Passez à la deuxième lettre de Timothée, s'il vous plaît. Le voici. Deuxième Timothée, chapitre 1. Rappelez-vous, nous cherchons à approfondir l'importance de l'Esprit de Dieu. Ce que nous avons commencé, c'est de pouvoir faire cette première chose avant même d'être mouillé, avant d'avoir l'occasion de sortir de l'eau, avant d'avoir l'occasion de recevoir l'Esprit de Dieu. Nous devons avoir accès à l'Esprit de Dieu pour savoir ce que nous devons changer. Nous avons donc abordé ce sujet. Nous avons maintenant le deuxième chapitre de Timothée, et nous commencerons au verset 6. C'est pourquoi je vous rappelle que vous excitez le don de Dieu. Voici un autre don de Dieu, qui est en vous par l'imposition de mes mains. Quel est ce don, à votre avis? L'imposition des mains est un don de Dieu. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est après qu'il soit sorti de l'eau. C'est à ce moment-là que le pasteur leur impose les mains, qu'il leur impose les mains et qu'il demande à Dieu de leur accorder le don suivant. Son esprit, et une partie de son esprit est l'Esprit Saint de Dieu. Vous y avez déjà pensé? La puissance, l'amour et un Esprit Saint. J'ai utilisé cela tellement de fois pour décrire ce qu'est l'Esprit de Dieu et l'importance d'une pensée correcte, d'une pensée correcte. Vous savez, qu'il s'agisse de parler à vos frères et à votre congrégation ou simplement à quelqu'un au téléphone qui veut parler. Ces deux dons, le premier a permis d'accéder au deuxième don. Nous ne pourrions pas passer au second sans le premier don, les deux impliquent, l'un est l'accès à l'Esprit de Dieu. L'un est l'utilisation de l'Esprit de Dieu lorsqu'il l'a mis en nous. Réfléchissez, car il s'agit de cadeaux. Tout le monde a fait un cadeau. J'ai vu un jeune homme donner un cadeau à un autre jeune homme aujourd'hui. Lorsque nous offrons un cadeau, lorsque nous préparons un cadeau, n'y pensons-nous pas? N'y pensons-nous pas? N'y mettons-nous pas un peu d'effort? Ne mettons-nous pas un peu d'espoir dans le fait qu'ils apprécieront et voudront ce cadeau? Dieu ne ferait-il pas la même chose? Dieu ne fait-il pas la même chose lorsqu'il nous donne d'abord accès à son esprit et qu'il nous donne ensuite une partie de son esprit? Alors, frère, assurez-vous que vous vous assurez que vous vous assurez, que vous vous assurez. Je me parle à moi-même. J'utilise ces dons avec l'Esprit Saint de Dieu. Nous allons donc approfondir un peu cette question. Quelle est l'importance de ce don de l'Esprit de Dieu pour Dieu? Quelle importance? Qu'est-ce que Dieu en pense? Vous savez, il y a réfléchi. Il y a une raison à cela. Regardons donc un passage des Écritures que je n'avais jamais associé à cela avant de commencer à creuser et à le lire. Jean 3:16. Je pense que c'est seulement la deuxième fois que j'aborde Jean 16 dans un message, mais c'est applicable. Une fois de plus, à quel point est-il important pour Dieu que nous n'ayons pas seulement accès, mais que nous ayons une mesure de sa propre pensée? Qu'est-ce que Dieu a fait pour s'assurer que nous ayons cela? Jean 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ a dû venir et mourir pour que Dieu puisse nous donner accès à son Esprit. Ne pensez-vous pas que c'est important pour Dieu? Ne pensez-vous pas que cela devrait être d'autant plus important pour nous, pour que nous soyons plus reconnaissants? Merci, Dieu. Donnez-moi davantage. Aidez-moi à utiliser votre esprit, à utiliser cet Esprit Saint pour prendre chaque décision dans ma vie, non pas selon l'esprit de l'homme, mais selon votre esprit, Père. Je n'avais jamais regardé Jean 3:16 de cette manière. Je ne le verrai probablement plus jamais d'une autre manière, ou je le verrai toujours sous cet angle. Mais je n'y avais jamais réfléchi. Encore une fois, quelle est l'importance de l'accès à l'Esprit de Dieu et de l'utilisation de l'Esprit Saint de Dieu pour Dieu? Je fais ici une déclaration sur laquelle je reviendrai plusieurs fois pour m'assurer que j'ai bien compris. N'oubliez pas que les actions commencent dans l'esprit. Les actions commencent par des pensées. Avant de faire quelque chose, nous y pensons. Ce peut être consciemment ou parfois inconsciemment, mais cela passe par notre esprit. Encore une fois, quelle est l'importance de l'accès à l'Esprit de Dieu? Passez au chapitre 7 de Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 7, verset 21. Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Rappelez-vous ce que j'ai dit, les actions commencent dans l'esprit par des pensées. Alors, décomposons un peu. Tous ceux qui se contentent de dire « Seigneur, Seigneur, Christ » n'auront pas accès au royaume des cieux. Mais nous devons être des faiseurs. Nous devons faire quelque chose. Nous devons faire quoi? Nous devons faire la volonté, les pensées, l'Esprit de Dieu si nous voulons avoir accès, si nous voulons hériter, entrer dans le royaume de Dieu. C'est aussi important que cela. J'ai trouvé ce sujet pratiquement partout où j'ai regardé et je n'avais aucune idée qu'il était presque partout et je l'ai presque trouvé partout. Je n'arrive pas à croire que j'ai laissé une pile de papier avec des écritures sur le sol. J'aurais pu facilement l'utiliser, mais il y a une limite de temps, alors je n'ai pas pu le faire, je n'ai pas voulu le faire. Mais avec cela, connaître et ensuite faire la volonté de Dieu sera nécessaire pour le royaume. À partir de là, est-ce que quelqu'un peut savoir? Est-ce que n'importe qui, je dirais juste, est-ce que n'importe qui peut savoir, alors savoir faire la volonté de Dieu? Est-ce que quelqu'un le peut? Voici une autre copie de l'Écriture que j'ai dû apprécier, je ne dis pas que j'ai dû, mais que j'ai dû, dont j'ai parlé et que j'ai expliqué à maintes reprises. Restez dans Matthieu et allez au chapitre 13, s'il vous plaît. Encore une fois, est-ce que quelqu'un peut connaître la pensée de Dieu? Quelqu'un peut-il donc savoir ce qu'il faut faire selon la pensée et la volonté de Dieu? N'importe qui peut-il le faire? Matthieu 13, nous commencerons au verset 10. Verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Si vous vous arrêtez là, si vous regardez au verset 2, vous verrez de quoi il s'agit. Une grande foule. Le « e » est une grande multitude. Ce « e » est une grande multitude. Il y a un autre « e » là-dedans. Ce « e », c'est une grande foule. Christ leur parlait, à ces grandes foules, en parabole. Christ répondit et dit à l'autre groupe, les disciples, parce que, vous savez, pourquoi leur a-t-il parlé? Il leur parle parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais pour eux, cette multitude, ce n'est pas donné. Car on donnera à celui qui a, et il aura encore plus, mais on ôtera à celui qui n'a pas ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient pas, et qu'en entendant ils n'entendent pas, et ne comprennent pas. Et voici 14, en ne s'accomplit la prophétie d'Ésaïe, qui dit, vous entendrez, et vous ne comprendrez pas. Vous verrez, et vous ne comprendrez pas. Par la vue, vous verrez et vous ne comprendrez pas. Qui veut connaître les mystères du royaume de Dieu? Moi. Ici, si tu n'as pas accès à la pensée de Dieu, il va y avoir une parabole pour toi. Est-ce la faute des hommes? Ce n'est pas leur faute. Dieu ne les appelle pas en ce moment. Il appelle les disciples. Il est vrai que les disciples n'avaient encore reçu que le premier don à ce moment-là. Ils n'avaient pas été baptisés. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux, mais ils avaient accès à la pensée de Dieu. Cet accès leur ouvrait déjà les mystères de Dieu. Alors combien plus lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, cet Esprit Saint? Jusqu'à quel point les mystères s'ouvriront-ils? Devraient-ils s'ouvrir? Devraient s'ouvrir. C'est une autre écriture dont j'ai parlé. J'expliquais aux gens, vous savez, qu'ils demandaient toujours, je ne sais pas si je suis appelé. J'ai dit, eh bien, en parcourant d'autres écritures, et j'ai dit, eh bien, le monde, regardez dans la Bible, je ne vois pas un plus un et je n'obtiens rien d'autre que deux. Ce n'est pas leur faute. Mais ils obtiennent n'importe quoi, mais ils obtiennent 1.9 ou 2.1. Ils ne verront jamais le 2. Ce n'est pas de leur faute parce que c'est une parabole pour eux. Ils n'ont pas cet accès. Frères et sœurs, nous avons cet accès. Veillez à l'utiliser. Ne le gaspillez pas. Nous avons donc en quelque sorte insisté, j'ai essayé d'insister sur l'importance de l'Esprit de Dieu. Pour voir le point de vue de Dieu à ce sujet, pour voir les avantages qu'il y a à l'avoir, rien que l'accès, sans parler du fait d'avoir l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Nous allons maintenant prendre un léger virage, une petite direction. Nous allons examiner les conséquences d'une pensée erronée ou disons d'un esprit non divin ou d'une pensée non divine pour voir ce que... Très bien, que pourrait-il se passer si nous ne suivions pas la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu? Et je répète ce que j'ai dit, les actions commencent dans l'esprit avec nos pensées. Allons donc chez Luc. Luc, chapitre 6. Luc, chapitre 6. En voici un qui est un peu inhabituel. Je n'y avais jamais pensé dans ce sens, mais il y avait tant d'autres écritures qui en parlaient. Je me suis dit que cela pourrait faire l'objet d'un autre message. Mais Luc 6, 45. Luc 6, 45 dit, « L'homme bon tire du bon trésor de son cœur ce qui est bon, et l'homme mauvais tire du mauvais trésor de son cœur ce qui est mauvais. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est un peu une version longue de cela, vous savez, de l'abondance de la bouche parle. Mais j'ai choisi cette version parce qu'elle parle du bon trésor du cœur et du mauvais trésor. Nous comprenons qu'il nous est demandé de placer nos trésors dans les cieux, dans le royaume de Dieu. Nous le faisons avec nos dîmes, nous le faisons avec nos offrandes. Vous savez, c'est un trésor physique. Qu'est-ce que Dieu pourrait considérer comme un autre trésor? Ne serait-ce pas ce don qui a pris la mort de son fils comme un trésor? L'Esprit de Dieu, ses pensées. La pensée de Dieu pourrait-elle être un bon trésor si nous avons de bonnes pensées juste par opposition à de mauvaises pensées diaboliques? Je ne peux qu'imaginer que Dieu considère son esprit comme un trésor en nous. Je suis sûr que c'est bien plus que de l'argent, mais nous donnons fidèlement notre trésor physique avec impatience et joie. Frères et sœurs, nous devons nous assurer que nous donnons ce trésor spirituel, ce trésor qui coûte le sang de notre Sauveur. Sans son sang versé, sans sa mort, nous n'aurions pas eu accès à la pensée de Dieu. C'est cette pensée, c'est cette volonté de Dieu. C'est un bon trésor. C'est un bon trésor. Vous pouvez toujours savoir quand quelqu'un n'a pas un bon trésor dans ce sens, parce qu'il le dit juste à la fin, il se remplit et déborde de sa bouche. Si vous voyez cela en vous-même, vous pouvez dire, « Oh, attendez une minute, où est mon trésor? Est-ce que je choisis le bon trésor ?» Il ne s'agit pas seulement d'un trésor physique. Dans différentes écritures, Christ a parlé d'une loi physique, mais aussi d'un aspect spirituel. Passons aux premières chroniques. Première chronique, chapitre 28. Je ne pense pas avoir déjà entendu ce passage, mais nous l'avons entendu l'autre jour et il a résonné. J'ai donc dit, il faut que je l'utilise. C'était tout à fait approprié. Première chronique, chapitre 28, verset 9. 28 et le verset 9 dit, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur parfait, d'un esprit bien disposé, Car l'Éternel sonde tous les cœurs, et il comprend toutes les imaginations des pensées. Si tu le cherches, tu le trouveras. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Si nous n'utilisons pas l'Esprit de Dieu auquel nous avons accès pour chercher constamment Dieu, ou si ceux dans le monde qui n'en ont littéralement aucune idée le cherchent, vous savez, Salomon l'a manifestement fait. Salomon avait un esprit bien disposé, mais il devait s'assurer qu'il gardait cet esprit bien disposé. Qu'est-ce qu'un esprit bien disposé? L'Esprit Saint de Dieu. Vous savez, avec lui, un cœur parfait et un esprit bien disposé, disposé à suivre Dieu, disposé à connaître la volonté de Dieu, disposé à faire la volonté de Dieu. Et l'avertissement est donné tout à la fin. Mais si nous ne le faisons pas, nous serons abandonnés. Nous l'abandonnerons, et nous serons rejetés pour toujours. Ce sont là, vous savez, les conséquences d'une pensée erronée. Les conséquences de... Où est le mot? Il me manque. D'un esprit réticent à cela. Ce sont des mots durs. Dieu peut être brutal. Elles sont toujours vraies, et elles sont toujours utiles, mais ce sont des paroles dures, juste à la fin. Mais si vous l'abandonnez, il vous rejettera pour toujours. Dieu a-t-il déjà rejeté et abandonné quelqu'un avant cela? Salomon aurait-il pu avoir un exemple? Dites, oh, oui, attendez une minute. Je me souviens de cela. Je me souviens de l'histoire de ce qui s'est passé. Eh bien, de toute évidence, la réponse est oui, si vous vous reportez à la Genèse. Nous allons voir un exemple de pensée erronée et les conséquences de cette pensée erronée, de cet esprit erroné. Genèse, chapitre 6, et nous commencerons au verset 5. Genèse 6, verset 5. Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur n'étaient que malice continuelle. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur en fut attristé. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Toutes les fantaisies du cœur, qui étaient méchantes, entraînaient des conséquences. Et ces conséquences n'étaient pas seulement locales, elles étaient mondiales. Quelle est l'importance d'une pensée correcte? Cette pensée erronée a conduit la seule famille à survivre sur terre. Dieu prend cela au sérieux. Il prend très, très au sérieux le fait de suivre sa volonté, de suivre son esprit. Comme je l'ai dit, ce que nous faisons a des conséquences. Par exemple, si nous avons une mauvaise alimentation physique, cela entraîne une mauvaise santé physique. Eh bien, mes frères, si nous avons une mauvaise alimentation mentale, nous venons de voir les conséquences. Cela conduit à une mauvaise santé mentale, spirituelle, et nous ne voulons pas cela. Personne ne le veut. Dieu ne le veut pas. L'Esprit de Dieu ne veut pas cela, mais il veut aussi une pensée juste. Il veut aussi que nous lui obéissions. Il veut que nous puissions appeler Jésus-Christ Seigneur et hériter du royaume de Dieu, mais il faut pour cela que nous soyons en phase avec la pensée de Dieu. D'accord. Nous avons examiné l'importance de la pensée de Dieu, pour l'homme et du point de vue de Dieu. Nous avons vu quelques exemples et les conséquences d'une pensée erronée, d'un manque d'alignement sur l'Esprit de Dieu. Maintenant, c'est plus amusant. Comment nous assurer que nous sommes alignés? Comment régler les problèmes qui peuvent surgir en nous? Et mes frères, c'est nous qui allons aider à résoudre ce problème dans le monde. Vous dites, je n'aurai jamais à le faire. Eh bien, ce monde en a besoin partout où vous regardez, mais ne négligez pas ce premier vous encore une fois. C'est ce que je me dis tout le temps. Le moi dans le miroir, je dois m'assurer que j'ai aussi l'esprit droit. Voyons maintenant les solutions au problème. J'ai mentionné, vous savez, quelque chose de premier tout à l'heure, le premier départ, ce premier don, alors revenons à un autre premier. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire en premier? Quelle est la première chose que Dieu nous dit? Fais d'abord ceci. Regardons dans Matthieu. Cela prépare le terrain. Vous pourriez presque faire cela et dire, c'est tout. Mais ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais continuer à parler un peu. Matthieu 6, verset 33, l'écriture que vous connaissez si vous ne l'avez pas mémorisée par chapitre et par verset, mais Matthieu 6, verset 33 dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Cherchez d'abord. Eh bien, pour en revenir à ce que je disais, je vais le répéter encore et encore. Les actions commencent dans l'esprit. Donc, pour chercher, il faut y penser. Et si nous pensons à chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide. C'est probable. Je ne suis pas assez proche de l'Esprit de Dieu pour dire que c'est exactement la raison pour laquelle Dieu a mis cela là, mais je peux supposer que c'est une merveilleuse raison. Il a dit, « Faites cela parce que cela nous fait penser à lui, ce qui est en quelque sorte ce dont il est question. » Le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Qu'y a-t-il de plus juste que Dieu lui-même, que l'Esprit de Dieu, cet Esprit Saint? Et lorsque nous faisons cela, il dit que toutes les choses nous seront ajoutées. C'est-à-dire toutes les choses, tout ce qui est bon, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est joyeux, toutes les choses nous seront ajoutées lorsque nous chercherons d'abord. Ne mettons rien d'autre en avant. Et nous pouvons le faire en utilisant ce don de Dieu, cet Esprit de Dieu qui nous aide à le faire en premier, qui nous aide à vouloir le faire en premier. Passez à Luc, s'il vous plaît. Luc, chapitre 11. Dans Matthieu, il nous a donné un mot d'action. Nous allons retrouver ce mot d'action ici même. J'ai pensé à le jeter et à le mentionner, mais je crois que je viens de le faire. Mais Luc, chapitre 11 et verset 9, cela va de pair avec Matthieu 6, 33. Verset 9. Je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Eh bien, mes frères, nous demandons selon la pensée de Dieu, nous cherchons la pensée de Dieu et nous frappons pour avoir plus de cette pensée, de cette volonté, de cette compréhension, de cette pensée de Dieu, et il s'ouvrira à nous. Ce sont des mots d'action. Cherchez, demandez, frappez. Ce n'est pas très bien, nous avons ce merveilleux cadeau. Je vais m'asseoir et le laisser faire tout le travail. Non, nous devons utiliser ce don. Voici une façon d'utiliser ce don merveilleux. Cherchez-le, demandez-le, frappez. Quand j'entends frapper, je pense à quelqu'un, vous savez, à une fenêtre, qui dit, « Laissez-moi entrer. » Eh bien, voyez les choses de cette façon. Père, donne-moi davantage. Donne-moi plus d'accès à ce merveilleux cadeau qui m'aide à avoir accès à ton Fils, à toi, au royaume, à la vie éternelle, à ton esprit. Mot d'action. Passez au chapitre 4 de l'Épître aux Philippiens. Philippiens chapitre 4. Retournez-le ici. Et où sommes-nous ici? Au verset 6. Lisez le verset 6 tout de suite. Philippiens 4 et le verset 6. N'ayez peur de rien, mais en toute chose, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. C'est un lien direct avec chercher, demander et frapper. Ne soyez pas prudent. Ne soyez pas timide. Soyez audacieux. Dieu nous donne cet esprit de hardiesse pour aller lui demander. Comme tout père, toute mère, si leur enfant a besoin et veut quelque chose, ils veulent qu'il vienne à eux. Mère, père, j'ai besoin de ceci. Et notre Père va nous le donner, mais nous devons le lui faire savoir. Demandez-lui. Demandez-lui dans la prière. Demandez-lui dans la supplication continuelle, encore et encore, et pensez que tout cela nous aide à nous rapprocher, à rester en contact, à rester en ligne avec la pensée de Dieu. Avec la volonté de Dieu. Je n'arrive toujours pas à croire que, partout, je pourrais presque feuilleter la Bible et juste toucher et trouver un moyen de parler de l'Esprit de Dieu, que ce soit à travers sa volonté, à travers ses pensées, à travers sa réflexion, à travers les imaginations du cœur, les pensées du cœur, tout cela est lié à l'Esprit de Dieu. Tout cela est lié à l'Esprit de Dieu. C'était la première partie de la solution. J'appelle cela chercher, demander et frapper. La deuxième partie de la solution. Comme je l'ai dit, c'est la partie la plus amusante. Comment allons-nous nous rapprocher encore plus de Dieu? Comment allons-nous être encore plus en phase avec la pensée de Dieu? C'est ce que cette dernière section vise à faire, je l'espère. Passez au chapitre 16 des Proverbes. Proverbes, chapitre 16 et verset 3. Confiez vos œuvres à l'Éternel, et vos pensées seront affermies. Frères et sœurs, si nous confions à Dieu tout ce que nous faisons, mais encore une fois, les actions commencent dans l'esprit. Ainsi, si nous confions nos pensées à l'Esprit de Dieu, qui les alimente, les inspire et les développe, Dieu les affermira. J'ai en quelque sorte écrit quelque chose. C'est comme si le fait d'engager nos œuvres établissait nos pensées, ce qui engage encore plus nos œuvres, ce qui établit encore plus nos pensées. C'est répétitif. Il grandit, grandit et grandit. L'un conduit à l'autre, qui conduit à l'agrandissement du premier, qui conduit à l'agrandissement du second, et ainsi de suite. S'engager, quoi que nous fassions, quoi que nous ayons reçu l'ordre de faire. Je crois que Salomon a dit, « Tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le de toutes tes forces. » Voici un autre passage des Écritures qui s'y rapporte. Engagez-vous. Prenez cet engagement. Je sais que vous l'avez fait. Frères et sœurs, je peux prendre un engagement encore meilleur. Le pouvez-vous? Je peux dire, vous savez, je peux faire encore mieux. C'est un engagement. Je veux faire mieux, et Dieu établira son Esprit Saint encore plus profondément en nous pour que nous puissions rendre cet engagement possible, pour que nous puissions faire encore mieux, et notre esprit devient de plus en plus saint, de plus en plus conforme à l'Esprit de Dieu. Je l'étiquette comme tel et je m'engage. Alors, où en sommes-nous? Restons dans les proverbes. Passer au point suivant, je suppose, faute d'un meilleur mot, le chapitre 11. C'est un chapitre important. Je devais vraiment m'assurer de ne pas trop l'approfondir, sinon j'aurais manqué de temps. Proverbe 11 et verset 14. Il s'agit du conseil. Le conseil 11, 14. Là où il n'y a pas de conseil, le peuple tombe, mais dans la multitude des conseils, il y a la sécurité. Frères et sœurs, là où il n'y a pas de conseil, les gens ont de mauvaises pensées. Là où il n'y a pas de conseil, ils ne savent pas qu'ils ont de mauvaises pensées parce qu'ils ne le savent pas, mais avec une multitude de conseils, d'abord avec le Père dans nos prières, dans notre étude, mais aussi avec votre ministre, et j'ai découvert que l'une des meilleures façons d'obtenir un conseil est, mes frères, de s'asseoir et de parler avec vous. Les repas partage, les réunions sociales, entendre la pensée de Dieu en vous est une source d'inspiration. C'est utile. Cela apporte la sécurité. Cela apporte du réconfort. N'abandonnez pas le conseil. Jamais. S'il vous plaît, ne le faites pas. C'est tellement utile. Comme je l'ai dit, j'ai vraiment dû m'assurer de ne pas entrer dans toutes les écritures différentes. J'adore en parler. J'adore en parler, mais nous allons passer à autre chose. Nous en aurons encore un, car j'ai le temps d'en faire un autre. Allez à Psaume 139. Je n'étais pas sûr d'avoir le temps de le faire, mais je le ferai. 39 verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Donne-moi un conseil, Père. Donne-moi un conseil. C'est ce qu'il dit. Sonde-moi et connais mes pensées, Père, afin que je puisse mieux connaître tes pensées, afin que je puisse mieux être en accord, en ligne et en connaissance de ton esprit. Il s'agit d'un conseil. C'est très important. Très bien. Nous nous rapprochons de la fin, mais je suppose qu'on se rapproche toujours de la fin. Passons à Matthieu. Je l'ai intitulé « L'humilité ». Matthieu 26. Matthieu 26, le contexte est Christ, il est dans le jardin en train de prier, donc nous allons regarder l'humilité. Nous allons aller plus loin, verset 39, il alla un peu plus loin, tomba sur sa face, et pria ainsi, « Ô mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je le veux, mais comme tu le veux. » Passez rapidement à 42. C'est à peu près la même chose. Il y retourna une seconde fois, en priant et en disant, « Ô mon Père, si cette coupe ne passe pas loin de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » C'est un être parfait. C'est cet agneau de Dieu sacrificiel, pur, sans défaut, qui dit au Père, « Père, je veux faire ce que tu veux faire. Je veux être en accord avec ton esprit. Je veux connaître tes pensées. Ce que je pense n'a pas d'importance, Père. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu penses. » Comme ce serait utile pour nous, pour le monde, d'avoir cette attitude. Au lieu de « oui, je veux faire à ma façon. » Non, non, Père, je veux agir à votre manière. C'est l'humilité du Christ. Et en conclusion, nous devons conclure rapidement. Voici un texte que j'avais prévu d'écrire en tout premier, mais qui sera en fait le tout dernier, pour conclure. Nous avons examiné l'importance de l'Esprit de Dieu, vous savez, pour l'homme et aux yeux de Dieu, nous avons examiné la pensée erronée, et ensuite comment s'assurer que la nôtre reste correcte, comment régler les problèmes, et comment apprendre peut-être à régler ceux du monde quand ce sera notre tour de le faire. Philippiens, chapitre 4, verset 8. Enfin, frères, quelles que soient les choses vraies, les choses nettes, les choses justes, les choses pures, les choses aimables, les choses de bonne réputation, s'il y a quelque vertu, s'il y a quelque louange, pensez à ces choses. Frères et sœurs, pensez à ces choses avec l'Esprit de Dieu.